France Culture.
Qu'est-ce qu'une sorcière ? Je m'apercevais que dans sa bouche, le mot était entaché d'opprobre. Comment cela ? Comment ? La faculté de communiquer avec les invisibles, de garder un lien constant avec les disparus, de soigner, de guérir, n'est-elle pas une grâce supérieure de nature à inspirer respect, admiration et gratitude ? En conséquence, la sorcière, si on veut nommer ainsi celle qui possède cette grâce, ne devrait-elle pas être choyée et révérée au lieu d'être crainte ?
Je l'ai pas celui-là. C'est la Nirku coupée. Non, je vais prendre celui-là.
Je te donne le ticket.
Ah oui, je veux bien. Du coup, ça me fait un livre de plus.
Sur la pile.
Bah oui, puisqu'on fait un book club autour de Marie Scondé ce soir au Théâtre de la Cité.
Ah, c'est bien.
Du coup, j'avais une pile de livres, mais j'avais pas celui-là.
Bah tu nous diras comment ça s'est passé ?
Ouais, ouais.
Marie Scondé en sororité. Au fil des pages, des gestes, des invisibles. Un documentaire de Myriam Rabaconaté, réalisé par Louise André. J'ai préparé un petit setup pour le book club, je vais vous montrer.
Allez, c'est parti.
C'est bien parce que je cherchais des nouveaux livres, des nouveaux romans à lire, donc...
Je pense que là, il y aura pas mal de choses...
Ah, mais il fallait vraiment de l'apéro, en fait.
Mais non, non, c'est moi qui ramenais des trucs, il n'y avait rien à ramener, hein.
Ah, ça va.
Ouais.
C'est de la sauge blanche. On brûle souvent ça chez moi.
Chez toi, où ?
Au Maroc.
Nina, à toi l'honneur.
C'était l'été, je pense, 2021. Une amie à moi m'a dit... que je devais absolument lire ce livre, donc C'est goût de Marie Scondé. Enfin, c'était limite vraiment une menace qui mettait en jeu notre relation de « il faut que tu le lis, sinon je ne te parle plus ». Et je dis « ok, bon, il a l'air long, mais je vais le lire du coup ». Mais du coup, j'ai commencé par C'est goût, que j'ai lu tout l'été. Et c'était une lecture hyper dense. Enfin, ça m'a grave marqué la manière dont elle raconte ça. Et avec cette amie, on se disait, c'est grave Game of Thrones, mais au Mali et en plus stylé, genre, c'est trop bien.
Marchou Maïmouna.
Alors, moi, je n'ai jamais lu de livre de Marie Scondé, mais j'ai entendu parler d'elle sur le tard, au moment de sa mort l'année dernière. Et par rapport aux paroles de personnes qui avaient lu et qui connaissaient son œuvre, les thèmes qu'elle aborde, c'est des choses qui résonnent beaucoup en moi. Et c'est ce qu'on m'a rapporté aussi de l'œuvre de Maryse Condé, des paroles qui portent et qui ont de la force et qui sont des rituels, des protections et qui sont passées à travers des générations. Et donc, j'ai vraiment hâte de découvrir son œuvre avec vous. Merci.
Ça te va de faire dans ce sens?
Oui, tout à fait. On peut faire dans ce sens. Alors moi, Maryse Condé, c'est une figure qui était avec laquelle j'ai grandi, dans le sens où les femmes de ma famille étaient... c'était un nom qui revenait beaucoup dans mon enfance. J'ai eu la chance au collège, je pense que c'est une chance d'avoir eu une professeure qui faisait lire Aimé Césaire, Maryse Condé, des choses comme ça. C'est une chance. Je vois ton regard avec des sourcils levés. C'est justement que je le relève parce qu'en vrai, c'était assez inhabituel. Mais voilà, c'était quelque chose où l'endroit où il y avait beaucoup un écho, notamment sur les questions de généalogie. Enfin, aujourd'hui, je mets le mot généalogie, mais à l'époque, c'était plus comment on faisait des liens dans une famille et de la voir dans son écriture aussi facilement remonter qui s'est marié avec qui héritait de quoi, qui était l'enfant légitime, illégitime. C'est quand même quelque chose d'assez important, la question de l'enfant légitime ou illégitime, en tout cas là où j'ai grandi, donc en Guyane. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup touchée. Et je pense que je ne veux pas dire que ça a construit les imaginaires, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'après ça, quand j'ai été un petit peu plus vieille, que j'ai lu... comment ça s'appelle Traversée de la mangrove. Voilà, les gars, Traversée de la mangrove. Donc là, c'était un livre que j'ai finalement lu toute seule aussi. Et c'était... Enfin, moi, en venant... je vais dire d'Amazonie, il y avait vraiment ce truc de se déplacer dans les bois, de se déplacer dans la forêt, avec beaucoup de descriptions de la pluie qui bat la terre, intensément, qui est quelque chose en fait que finalement je suis parfois aussi, enfin je me sens assez seule aussi dans ces impressions-là de forêt intense, de pluie qui bat, de toutes ces choses-là. Et du coup, je retrouve aussi dans son écriture toutes ces choses-là qui ont construit aussi la manière dont je pense l'espace, etc., etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Moi, je connais pas Maryse Condé. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, mais j'ai hâte de me rappeler vos rencontres quand je la lirai. Voilà.
En fait, genre pour moi, quand tu lis un livre de Maryse Condé, bah t'as plus envie de lire autre chose parce que t'es épuisé, tu traverses vraiment, enfin c'est toute une vie que tu traverses avec des gens avec qui tu dois dealer, des personnages complexes que t'aimes bien mais en même temps t'aimes pas, qui font des trucs bien mais en même temps ils sont pas gentils, enfin c'est compliqué comme la vraie vie. Et du coup tu lis ça, tu traverses ça comme une vraie vie et t'es épuisé, t'as plus envie de lire autre chose, enfin tu te dis bon je vais faire une pause là.
Moi j'ai l'impression que c'est un peu comme bon parce que j'ai été élevée aux telenovelas, mais un peu comme c'est pas vraiment comme les telenovelas, mais c'est aussi intense, un peu plus complexe, mais quand même après ça quand la saison est finie t'es là ah ouais t'as vécu une vie quoi, tu vois, c'est intense.
Hop là. Comme c'est toi qui tiens le livre, c'est toi qui commence.
Je n'ai qu'un regret, car les invisibles aussi ont leurs regrets, afin que leur part de félicité ait plus de saveur.
C'est de devoir être séparé d'Esther.
Certes, nous communiquons.
Je respire l'odeur d'amande sèche de son souffle.
Je perçois l'écho de son rire.
Mais nous demeurons de chaque côté de l'océan que nous n'enjambons pas.
Je sais qu'elle poursuit son rêve,
créer un monde de femmes
qui sera plus juste et plus humain.
Moi, j'ai trop aimé les hommes
et continue de le faire.
Oui, à présent, je suis heureuse.
Je comprends le passé.
Je lis le présent.
Je connais l'avenir.
À présent, je sais pourquoi il y a tant de souffrance.
Pourquoi les yeux de nos nègres et négresses sont brillants
d'eau et de sel. Mais je sais aussi que tout cela aura une fin.
Quand ?
Qu'importe.
Je ne suis pas pressée.
Je ne suis pas pressée.
Libérée de cette impatience qui est le propre des humains.
Qu'est-ce qu'une vie ?
Qu'est-ce qu'une vie
au regard de l'immensité du temps ?
Moi, Tituba Sorcière, Noire de Salem.
Je trouve ça trop beau. Qu'est-ce qu'une vie au regard de l'immensité du temps ? C'est magnifique.
m'appelle Dorothée Mugnanesa. Mais quand je suis née, mes parents m'avaient donné les noms de Dorothée Ningabire Nyampinga. Je les porte toujours ces noms-là, mais ils n'apparaissent plus beaucoup sur mes papiers administratifs, pour plusieurs raisons. Et j'ai appris à porter ce nom, vraiment, à le rendre mien, à me l'approprier. Donc aujourd'hui, je peux dire que je m'appelle, on m'appelle, je réponds au nom de Dorothée Mugnanesa. J'ai grandi au Rwanda, je suis artiste pluridisciplinaire. J'ai commencé par la musique, c'est vraiment ça ma formation, la musique et le chant. Et puis j'ai développé moi-même un autre langage artistique, plus lié donc à la chorégraphie. Mais vraiment ce qui m'intéresse c'est les mots, c'est comment on raconte, c'est les récits. Qui est-ce qu'on met au centre, quelles sont les vies qu'on célèbre sur les plateaux ou en dehors des plateaux. Je m'inspire beaucoup aussi du corps africain, du corps afrodescendant, du corps afrodiasporique. Et ces récits-là aussi m'importent beaucoup dans mon travail, qui est ample, j'espère, qui est généreux et qui tente de réparer quelque chose. J'espère rendre fiers mes ancêtres.
Extrait du spectacle « Toi, moi, Tituba », interprété par Dorothée Mugnanesa et inspiré des écrits d'Elsa Dorlin et de Marie Scondé.
Tituba Sorcière, je l'ai rencontrée pour la première fois quand je travaillais avec Okwi Okpokosili, qui est une performeuse américaine d'origine nigériane, donc il y a longtemps. Puis je l'ai repris au moment où j'ai rencontré Elsa Dorlin, donc, qui est philosophe et qui m'a parlé d'un texte qu'elle avait écrit qui s'appelle « Toi, moi, nous ». Tituba, ou l'anthologie de la trace, où elle sente vraiment l'œuvre monumentale de Marie Scondé. Et donc je me suis rejetée dans le livre et je l'ai relu encore pour le travail de toi, ma Tituba.
Moi, Tituba sorcière, noire de Salem. À un moment, la pluie chuchota doucement en inondant plantes, arbres, toits, et par contraste, je me rappelais les pluies glaciales et hostiles de la terre que j'avais laissée derrière moi. Ah oui, la nature change de langage selon les cieux, et curieusement, son langage s'accorde à celui des hommes. À nature féroce, homme féroce. À nature bienveillante et protectrice, hommes ouverts à toutes les générosités. Première nuit dans mon île. Les coassements des grenouilles et des mamans crapauds. Les trilles des oiseaux de lune. Le caquetage des volailles qu'apperaient les mangoustes. Et le braisement sec des ânes attachés aux calebassiers, amis des esprits, formaient une musique continue. J'aurais souhaité que le matin ne se lève jamais et que la nuit bascule dans la mort.
Du coup, je m'appelle Maïmouna Baradji, fille de Oumu et Seydou. Mon père est Soninke et ma mère est Bambara. Moi, mon travail artistique, c'est de m'intéresser un petit peu à la question de l'album de famille, de comment est-ce qu'on se souvient, comment est-ce qu'on se construit un imaginaire à partir de ça, comment est-ce que ça influence aussi notre rapport à la mémoire, au souvenir, à l'oubli. Et ça se développe un peu sur plein de supports différents, que ce soit du son, de la vidéo, beaucoup le dessin, l'écriture aussi pas mal, et la performance.
Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as rencontré Maryse Condé?
Ouais. Du coup, elle est venue au... Enfin, elle a été invitée au MUCEM, je sais plus c'était quelle année. Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois, que j'ai pris un peu conscience de quel âge elle avait, dans quel état physique elle était, ce qu'elle pouvait ne pas faire ce soir-là. Et du coup, elle disait qu'une voisine à elle, avec qui elle est amie, l'aidait en fait à écrire la suite de ses livres parce qu'elle ne pouvait plus écrire. Et que, en fait, elle venait tous les jours et elle passait des heures à lui raconter les histoires qu'elle voulait écrire. Et que, bon, en fait, elle pouvait s'arrêter à 17h et le lendemain, elle revenait et elle reprenait la phrase immédiatement après, comme si elle s'était jamais arrêtée, quoi. Et moi, ça m'a énormément marqué aussi parce que je m'interroge beaucoup sur les questions d'oralité, de comment est-ce que, bah justement, nos écritures, en fait, parfois, en fait, elles existent dans nos têtes pendant longtemps et, en fait, elles peuvent ne jamais être posées sur le papier et exister comme ça et circuler comme ça. Et de me dire que c'est comme ça que ça se passe aussi dans la tête de Maryse et qu'il y a toutes ces histoires, en fait, qui germent et qui possiblement ne vont jamais être posées sur le papier, mais qui existent dans sa tête, ou des suites potentielles, ou des personnages qui continuent à vivre en elle. Enfin, ça m'a fait poser plein de questions, et ça a ouvert plein de portes de réflexion sur ces espaces-là. Et pour moi, elle a un jardin dans la tête, et plein d'histoires dedans qui fleurissent.
Maryse et l'éveil des sœurs.
Texte de Maïmouna Baradji, paru dans Censored Magazine.
Et cette nuit-là, comme beaucoup de nuits ces derniers mois, j'ai senti l'appel du grand silence. Je me suis endormie, l'angoisse au ventre, l'insomnie aux portes de mes yeux. J'ai beaucoup scrollé, ignoré, j'ai récité des trucs, j'ai respiré. Me suis endormie sur l'afflux sanguin de mes orteils à mes yeux. Détendu ma mâchoire. Prêté attention au souffle. J'ai ouvert les yeux, le souffle court d'une nuit d'apnée. Elles m'ont dit que tu n'étais plus, que le vent t'avait emporté. Alors j'ai tapé ton nom sur internet pour être sûr. La tristesse ne fut pas longue, j'ai ressenti une grande fierté, une grande responsabilité. Un flambeau passé. Un chemin magnifiquement, glorieusement illuminé par ta vie, Maryse. Et j'ai senti tout le long de cette journée d'honneur que je n'étais pas seule à regarder. Tout ce legs, toute cette générosité, toute cette énergie vitale transmise et ton souffle nous a connectés, Maryse. J'ai senti tes enfants partout, leurs vibrations jointes aux miennes, leur colère, ma colère, leur amour, mon amour. Comme dans ces goûts, tu as à nouveau bouleversé des généalogies, créé des familles complexes, pleines de fierté, trop parfois, de pudeur, pleines de colère, qui se retourne parfois sur les siens. Mais nous nous retrouverons toujours, car un jour, Maryse a écrit une histoire, puis une autre, et tout ça s'est transformé en grand sort, qui nous lie et nous oblige à courir partout. Vite, 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 dire à tout le monde que l'on a compris, qu'on a vu un chemin, qu'une ancêtre nous a transmis caché entre les livres, qu'elle nous a dit qu'il faut écouter le vent, la pluie, l'eau. Qu'il faut recueillir au creux de nos paumes les larmes de nos aînés, les boire pour la sagesse, les boire pour la mémoire, pour la transmission. Le sel restera au creux de ta paume, de là naîtront des fleuves, connectant des enfants, enfants chantants. Et au réveil de cette journée, je les ai entendus, Maryse, je te le promets. J'ai vu les fils que tu as tissés, et nous serons toujours témoins. Et l'aigle de ta voix millénaire.
Et en fait, je m'étais dit que j'avais pas forcément envie de faire un hommage, vraiment, dire oui, Maryse, grande femme, can. Mais plus raconter ce qui s'est passé ce jour-là, ce que ça m'a fait, ce que j'ai ressenti en termes d'énergie, en termes de shift, en termes de... Qu'est-ce qui s'est passé le avant que Maryse décède et le après. Enfin, comme si j'avais l'impression que j'avais vu quelque chose plus clairement ce jour-là. Ou en tout cas, quelque chose de nouveau. Et je trouve que j'ai eu envie d'écrire plus sur ça.
C'est au niveau 3, vous montez là et on se trouve au niveau 3.
Ils sont avec.
Je vais t'alarmer, je vous attends.
Ouais,
merci.
Est-ce qu'on peut poser vos affaires dans ton bureau, tu penses?
Ouais.
Ouais, comme ça on sera un peu.
On va poser aussi dans l'espace.
Moi, je m'appelle Amandine. On est ici au Palais de Tokyo où je travaille en tant que curatrice, programmatrice artistique, où je conçois des expositions. Avant ça, toujours un peu, enfin, on se connaît, j'ai toujours fait de la curation de manière assez spontanée, avec l'idée plutôt de créer des espaces aussi. Mais en tout cas, toujours une envie de raconter des histoires et qu'on puisse ressentir des tonalités dans ces espaces d'exposition. Donc quelque chose d'assez sensoriel et où on puisse entendre, même à travers des œuvres d'art, entendre des voix. J'ai travaillé sur une exposition qui s'appelait « Tituba, qui pour nous protéger ?» et qui était donc une question et une manière aussi d'invoquer Tituba dans l'exposition comme un personnage aussi... qui faisait partie, en fait, à part entière d'exposition. Il y a une genèse à cette exposition qui m'a été rappelée par une des artistes, d'ailleurs, de l'exposition, Inès Di Foco. Il y avait déjà des germes de ce projet, il y a déjà même 4 ans, parce que j'avais voulu faire une exposition plutôt avec mon association, donc Transplantation, qui réunissait Inès Di Foco, Naomi Ulendo, et Réa Dion, qui font partie de l'exposition. Et il y avait déjà un lien avec Maryse Condé, mais c'était mettre en relation justement ces personnages-là de Tituba et Sula, de Toni Morrison. Mais je voulais faire une exposition où ces relations-là entre imaginaire plastique et littéraire puissent se croiser. Et quand je suis arrivée au Palais de Tokyo, j'ai directement... commencer à écrire ce projet. Il y avait ce rapport-là, je trouve, à la protection, le rôle protecteur des ancêtres, mais au-delà des ancêtres aussi, le rôle que joue la transmission de récits généalogiques, de filiation, comme forme aussi de protection, donc le rôle que joue la mémoire, en fait.
C'est l'heure d'aller dans les livres, je crois.
Désormais, Man Yaya s'initia à une connaissance plus haute. Les morts ne meurent que s'ils meurent dans nos cœurs. Ils vivent si nous les chérissons, si nous honorons leur mémoire, si nous posons sur leur tombe les mets qui de leur vivant ont eu leur préférence, si à intervalles réguliers nous nous recueillons pour communier dans leurs souvenirs. Ils sont là, partout autour de vous, avides d'attention, avides d'affection. Quelques mots suffisent à les rameuter, pressant leurs corps invisibles contre les nôtres, impatients de se rendre utiles.
Moi, Tituba sorcière, noire de Salem.
Je m'appelle Maboula Soumoro. Je suis maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone Et je suis spécialiste en études donc états-uniennes, africaines, américaines et de ce qu'on appelle la diaspora noire africaine, de cette ère géographique ou culturelle qu'on a appelée l'Atlantique noir. Je suis née à Paris de parents ivoiriens, immigrés en France hexagonale, et on est djoula. Et ça, ça compte pour, je suppose, ce qu'on va dire à propos de l'œuvre de Marie Scandé. En grandissant, j'ai fait des études supérieures d'anglais. Donc, ce qui veut dire que je n'avais pas du tout mon esprit sur les lettres françaises ou sur les lettres francophones, ni mon esprit, ni mon intérêt. Moi, j'étais vraiment sur le monde anglophone et sur les États-Unis particulièrement. Et il se trouve que l'année 1999-2000, donc ça commence à faire longtemps, j'étais en année de DEA, et c'est l'équivalent du Master 2 aujourd'hui. Et j'ai passé cette année à l'étranger, j'ai fait un programme d'échange aux États-Unis, à New York. Et quand j'arrive à New York, je connais des gens qui sont déjà sur place, des Français qui font leurs études là-bas, et on commence à me dire, tu devrais prendre le cours, il y a le séminaire d'Edouard Glissant. Donc je finis par prendre ce séminaire. Et à partir de là, peut-être que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait dans ce département de français. Et à un moment, il y a eu un colloque organisé en l'honneur de Marie Scandé. Et donc j'ai rencontré Marie Scandé tout à fait par hasard lors de ce colloque. Et ce n'est pas un colloque auquel j'ai assisté d'ailleurs. C'est un colloque qui était suivi d'une sorte de cocktail. Et moi, je suis venue au cocktail pour manger gratuit. Enfin, c'est ce qu'on faisait. J'avais pas du tout d'argent. Et on faisait que ça, aller à tous les cocktails de tous les départements, sciences politiques. Voilà, donc je suis venue manger. Et il y avait cette dame qui était là, qui était super ouverte et chaleureuse et qui a commencé à nous parler. Ça va, les filles? Qu'est-ce que vous faites là? D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous étudiez? Et puis, quand mon tour est arrivé, elle m'a dit, tu t'appelles Soumaoro? Et je lui ai dit oui, elle m'a dit, t'es du Mali? J'ai dit non, de la Côte d'Ivoire. Elle dit d'accord, t'es djoula? J'ai dit oui, je suis djoula. Et elle m'a dit, il faut que tu lises ses goûts. Hein. Moi, je me suis dit, ok, d'accord, poliment, mais je ne la connaissais pas.
Au sortir de ses goûts, ce sont les marches du désert. La terre est ocre et brûlante. L'herbe, quand elle parvient à pousser, est jaunâtre. Plus souvent, elle cède la place à une croûte désolée et pierreuse dont se nourrissent seulement les baobabs, les acacias et l'arbre à karité, symbole de toute la région. Parfois jaillit du sol, comme un rempart barrant l'horizon, une falaise tombant à pic sur le plan nu de la plaine environnante, à la fois montagne et citadelle, dans laquelle s'accrochent les dogons. Tout se courbe devant l'harmattan quand il souffle avec force, chassant les peules et leurs troupeaux, toujours plus loin vers les points d'eau. Puis, la pierre disparaît, vaincue par le sable, ça et là, piquée de graminées, aux graines acérées, comme des aiguilles. À perte de vue, s'étendent de grandes plaines, d'un blanc, tirant sur le jaune, sous un ciel rouge pâle. Pas un chant d'oiseau, pas un feulement de fauve. On croit que rien ne vit, hors le fleuve, aperçu par endroits, comme un mirage né de la solitude et de l'effroi.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar.
Et donc, quand je rencontre enfin, Maryse et que ensuite, peut-être 2 ou 3 ans plus tard, je lis ses goûts, c'est un vrai choc. Et ça restera jamais, évidemment, le premier livre d'elle que j'ai lu. Et c'est un livre, déjà, c'est 2 tomes, c'est massif, il se passe plein de choses, il y a du mouvement, il y a des pérégrinations, enfin, t'as plein de lieux, que ce soit ses goûts, Tombouctou, Djéné. Le royaume Ashanti, le Brésil, enfin, il y a quelque chose d'épique. Et surtout, il y a quelque chose de familial, c'est la famille Traoré. Et des Traoré, j'en connais. C'est pas ma famille, mais au moins j'en connais, ça devient accessible. Et je pense que jusqu'à là, toutes les choses que j'avais lues, que j'avais étudiées, c'était des choses qui ne faisaient pas partie de mon monde. Donc là, avec ces goûts, je suis revenue dans mon un monde d'origine et de manière en plus valorisante. Et donc, ça, c'est comme si j'y trouvais des échos par rapport à mon histoire familiale et à toutes les, aussi le, que ce soit les légendes, soit histoire, tu vois, de grands récits, des mythes fondateurs qui, pour moi, passaient pour folkloriques. Enfin, tu vois, quand tu les opposais à ce qu'on te disait en France, et qu'en fait, je me suis dit peut-être que j'ai raté des choses de ma culture, il y a des choses que je n'ai pas comprises. Et ça, c'est, ça a commencé avec Maryse.
Quand j'ai lu ses goûts, ça m'a pas mal impressionnée. Dans un truc où, bah, moi, les livres, ça nourrit aussi grave mes aspirations dans ma vie. Et ce livre-là, je me suis dit, ok, enfin, pour avoir la légitimité d'écrire quelque chose d'aussi grand, d'aussi complexe, je me suis dit, ok, bah, c'est des endroits où il faut travailler, quoi. Il faut aller poser des questions, il faut ouvrir les portes. Et ça m'a donné envie de faire ça. Ça m'a donné envie de poser des questions à ma mère. Et je lui ai dit, oui, je suis en train de lire ce livre qui parle des Bambara, et elle raconte ça, elle raconte ci, est-ce que c'est vrai, etc. Et ça a créé cette petite ouverture venant d'elle. Où là, elle a commencé à me raconter des histoires et tout. Et du coup, c'était déjà à cet endroit-là que je me suis dit, ok, bah, peut-être que si moi, je commence à me réapproprier mes archives et que je commence à les dessiner plus et que je lui en parle et que je lui montre, ça va peut-être réactiver des choses. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est un peu ce truc qui s'est créé de va-et-vient entre elle et moi où elle va me raconter un petit truc et je vais rentrer chez moi, me poser des questions, faire des recherches, dessiner, revenir et lui dire « Ah, regarde, j'ai fait ça un peu de manière désintéressée. » Et là, elle va recommencer à me raconter d'autres trucs et je vais repartir. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui a été grave initié par justement cette rencontre entre ses goûts et moi et ensuite ma mère et moi. Et
cette question de comment des mots progressivement habitent nos rêves parce qu'ils sont des images en fait, parce que ces mots sont créés des images et des images visuelles, enfin des images mentales. Je peux rêver de ces goûts à partir de Maryse Condé, ou parce qu'il y a des images mentales qui sont très très fortes à partir de ce roman là et que bon, je dirais pas qu'aucun ouvrage historique aurait pu faire, mais pas de cette manière là aussi. Ou même le Brésil, tout le passage de ses goûts, où on va au Brésil, des quilombos. Et je pense que c'est ça son travail aussi de transmission et de guérison mémorielle aussi. C'est que sur ces périodes aussi, ces contextes historiques, on a des faits souvent, mais on n'arrive pas à entretenir aussi une mémoire peut-être visuelle. On n'arrive pas à... Et je trouve qu'elle arrive à créer cela, en tout cas.
Ses goûts est un jardin où pousse la ruse.
Ses goûts est un jardin où pousse la ruse.
Ses goûts
est bâti sur la trahison.
Parle de ses goûts, hors
de ses goûts,
mais ne parle pas de ses goûts dans
parle de ses goûts, hors de ses goûts, mais ne parle pas de ses goûts dans ses goûts.
Ce qui est intéressant, c'est que on vient me proposer, donc c'est les réalisateurs Cédric Ido et Antoine Chevrolier, qui tout simplement viennent me proposer d'adapter ses goûts. Ils sont réalisateurs. Ils me disent, mais ça je n'en ai aucun souvenir, ils me disent que c'est moi qui leur ai parlé de ses goûts et qui leur ai dit qu'il fallait vraiment que quelqu'un adapte ce livre. Moi j'ai aucun souvenir de ça. Et au final, apparemment, l'idée a germé en eux pendant quelques années. Ils ont racheté les droits et ils m'ont apporté ces goûts sur un plateau en disant « Est-ce que tu veux participer à l'adaptation de cette œuvre ?» Et moi, j'ai dit « Bien sûr que oui !» Au moment où ils viennent me proposer ça, donc Cédric et Antoine, moi, je suis en pleine transition. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup aux questions de traduction. passer donc d'une langue à une autre, mais également passer d'une forme à une autre. Et pour moi, cet exercice d'adaptation, c'est aussi un exercice de traduction. En fait, comment dit-on ses goûts en images? Comment dit-on ses goûts en dialogue? Comment, sachant qu'on ne pourra pas tout faire et qu'il faudrait 28 000 saisons pour couvrir tout ce qui est couvert dans ses goûts, mais comment on peut synthétiser, résumer, illustrer, quelle métaphore on peut utiliser pour rendre ses goûts possibles dans cette langue audiovisuelle, dans cette industrie d'aujourd'hui.
Je suis retombée sur Tituba dans ma chambre et je me suis dit, ah mais oui, en fait, dans ce roman, il y a une belle manière de raconter, en fait. On a Tituba qui a cette relation avec ses invisibles. J'adore le fait qu'en fait, il y a un nom avec ses invisibles avec un grand I et qui réunit comme ça tous les personnages qui l'ont quitté. En fait, c'est une figure qui est en deuil, en fait, qui est vraiment en deuil constant, mais qui pourtant réaffirme qu'elle n'est pas seule, parce qu'elle est entourée de ses invisibles. Et je me suis dit, ça peut être une occasion, voilà, de croiser des récits, croiser des imaginaires, de créer une porosité comme ça, artistique et littéraire, où, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que ce soit Maryse Condé... à son époque qui écrit ce roman, ou même dans sa littérature, en fait, cette question elle est omniprésente, ou que ça soit des jeunes artistes afro-descendantes aujourd'hui, il y a ces mêmes préoccupations-là, en fait, et il y a des recherches plastiques, comme il y a des recherches narratives, et comment tout ça peut se croiser dans un espace qui soit un peu dans une forme d'entre-deux mondes aussi, qui arrive à toucher cet entre-deux-mondes, mais pas juste l'entre-deux-mondes physique, spirituel, mais qui puisse vraiment toucher l'entre-deux-mondes littéraire, plastique, quoi.
Elle va être assez longue.
Tu veux qu'on décale un peu par là?
Un petit peu.
Alors attends, on va mettre le kikoi. On va tout soulever. Ok. Je fais attention. Ouais, de toute façon, on va pas rouler jusqu'au bout si tu veux, comme ça on l'abîme pas. Je mets Maryse au bout. Est-ce que je peux te laisser décrire ce que tu as dessiné ici et...
C'est du papier de bambou.
Ah, ok.
Qui fait plusieurs mètres et à chaque fois, je dessine. Et ensuite, je coupe quand j'ai la sensation que j'ai fini.
En fait, on dirait grave des parchemins.
Mmh. Bah, c'est la transparence qui m'a grave intéressée. Et le fait que je puisse dérouler les histoires. Et que avoir la sensation que ça peut être infini sans avoir ce stress du papier, du format carré pour raconter quoi.
Est-ce que tu as utilisé une partie de ces dessins pour illustrer ton texte sur Maryse et l'éveil des sœurs?
Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi pas mal comment est-ce que la manière dont je raconte aussi les choses, un peu de manière fragmentée, qui a un peu des intrusions de, par exemple, là, ma main avec mon téléphone aussi, qui est un peu au même stade que les bijoux, pour parler un peu de ces endroits où aussi je communique avec ma mère, un peu ce truc aussi de plein de formes d'écriture différentes. Enfin, je pense que c'est aussi des endroits où
ça m'a pas mal inspirée de me dire que bah, en fait, j'avais la liberté d'écrire sur le papier, d'écrire à travers le dessin, de raconter comme ça. J'essaye un peu de beaucoup parler de la sensation de la mémoire aussi et de travailler beaucoup plus justement par sensation que peuvent éveiller le dessin, plus que de raconter vraiment les choses, parce que bah, je suis pas historienne de ma mère. Comme je parle en plus d'une relation intime, bah, y a des endroits où il y a certaines choses que je garde aussi pour moi. Et du coup, le dessin, il prend cette forme-là aussi par soit les vides de l'histoire, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas, mais aussi par le droit aussi de ne pas tout raconter, de ne pas tout savoir, mais de garder cette sensation, en tout cas, de la mémoire et de ce qui se passe dans ma tête, dans mon subconscient, et trouver un peu des formes plastiques qui parlent de ça, en fait, de cette sensation, d'essayer de se souvenir, et aussi d'accepter que certaines choses ne vont pas émerger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de blanc dans mon dessin, c'est aussi un peu accepter qu'il y ait des histoires qui puissent ne jamais émerger sur le papier.
Le costume que je porte, c'est une robe avec différentes... C'est ma maman. Avec différentes matières. Et là, donc, c'est une matière opaque par moment et transparente par moment. Donc on voit mon corps en dessous. Et il y a aussi... deux autres robes, enfin une autre robe et un manteau que je porte, qui sont blancs. Mais je ne les porte pas comme une robe, enfin, je les porte selon la chorégraphie, je les ramène au-dessus de ma tête et ça devient comme une coiffe, quoi. Enfin, moi je pense à ce moment-là précisément à toutes ces femmes, qu'elles viennent d'Afrique ou qui sont afrodescendantes en Haïti, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, qui ont des façons de se coiffer avec différents tissus. Et donc, je leur rends hommage avec cette matière-là, enfin, cette forme-là, plastique. Mais tout est tout le temps... Ce n'est jamais complètement figé. Il y a toujours du mouvement, une transformation. Et cette matière blanche, c'est parce qu'on parle de page blanche. C'est-à-dire... Dans le texte d'Elsa Dorlin, où il est question d'archives, où il est question de retourner aux archives, qui a accès à ces archives, qui n'y a pas accès, qui est archivé, c'est toutes ces questions-là, liées à la page, quoi, liées à des pages de nos histoires. Qu'est-ce qu'on réécrit? Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on met en exergue? Qu'est-ce qu'on met en lumière? La matière du costume aussi y contribue. Qu'est-ce que j'ai envie de révéler? Qu'est-ce que j'ai envie de garder opaque? Qu'est-ce que j'ai envie de rendre transparent? Et surtout, voilà, cette matière qui est liée à l'archive et à ces noms qu'on a envie de remettre sur ces pages-là, quoi. J'y vais?
Victoire, les saveurs et les mots.
Je n'avais jamais vu pleurer ma mère. Même quand elle s'était cassée l'os du bras en glissant dans l'escalier. J'éprouvais d'abord un sentiment capiteux qui ressemblait à de l'orgueil. Moi, 10 ans, la petite dernière, j'avais dompté la bête qui menaçait d'avaler le soleil. J'avais arrêté les bœufs de Porto Rico en plein galop. Puis le désespoir m'opprit. Bon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait? Je n'avais pas retenu ma leçon, mais démêler avec Yvelise ne m'avait pas suffi. Il ne faut pas dire la vérité. Jamais, jamais à ceux qu'on aime. Il faut les peindre sous les plus brillantes couleurs, leur donner à s'admirer, leur faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Je me précipitais hors du salon, montais l'escalier 4 à 4. Mais la porte de la chambre à coucher de ma mère était close. J'eus beau hurler, cogner sur le bois des deux poings et aussi des deux pieds et ne s'ouvrit pas. Je passais la nuit à pleurer. Le lendemain, ma mère affecta de me traiter comme à l'habitude. Elle ne coiffa pas mes cheveux d'une main plus rude et planta mes 4 nattes d'un nœud rose. Elle fit briller mes jambes avec un peu d'huile de carapate et me fit réviser mes leçons. qu'en pleurant toutes les larmes de mon corps, j'entourais son cou de mes bras, expliquant que je n'avais pas vu Malice et lui demander pardon, elle questionna glacial. Pardon ? Pourquoi pardon ? Tu as dit ce que tu pensais ? Ce calme donnait la mesure de sa blessure. Ça y est, je la revois. En fait, tout est lié. C'est-à-dire, elle parle de sa grand-mère en parlant de sa mère. Et aujourd'hui, on parle d'elle.
Marie Scondé, c'est une manière d'écrire qui est très immersive en termes d'image que ça provoque. Pour le coup, elle a une littérature qui souvent même a été critiquée parce que elle est peut-être pas comme les écrivains antillais des années 90 qui ont été dans des expérimentations d'écriture où on ressent énormément le créole. Mais c'est justement ça qui m'intéressait, c'est que pour autant, je trouve qu'on ressent une manière de parler et d'écrire dans la manière dont elle construit ses phrases. Il y a quelque chose qui m'est familier, et aussi dans une forme de recours à la fois à des images, à la fois à des narrations très directes. Par exemple, dans Tituba, un passage qui m'avait vraiment marqué, c'est... c'est la relation de Tituba aux enfants qu'elle perd, en fait. Mais ça, c'est décrit de manière très, très directe. Il n'y a pas de place pour le pathétique, enfin, un pathos. Et ça, moi, ça m'a vraiment inspiré d'avoir une écrivaine, surtout sur des thèmes et sur un contexte comme l'esclavage, comment on raconte des récits qui se situent dans cette période sans tomber non plus dans un pathos qui ne fait pas honneur nécessairement en fait à l'expérience et à la brutalité en fait du vécu de ces personnes esclavisées à cette époque.
Maryse, pour moi, elle est devenue très, très pratique dans ma recherche pour sonder et peut-être illustrer ce mouvement perpétuel qui caractérise cette diaspora noire africaine, tu vois. Et donc, ça, j'en avais conscience. Et après, je ne sais pas dans quel ordre j'ai lu les autres livres, mais voilà, Tituba aussi, la Barbade, le nord des États-Unis. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de pérégrinations. C'est la Nierkoukoupé. J'ai adoré l'histoire... de cette femme, même si là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lue, mais dans mon souvenir, c'est quand même Lanier qui se lance dans une vengeance au moins tricontinentale. Elle va en Afrique, elle va je ne sais pas où, mais plein d'endroits, parce qu'il y a une embrouille qu'elle doit régler et elle veut se venger. Et j'ai adoré ça, qu'elle voyage dans le monde entier pour aller tuer des gens ou causer le trouble partout où elle va, tu vois. Donc, ce que j'ai trouvé chez Maryse, c'est vraiment... Le mouvement, la force du récit, c'est une vraie conteuse. Enfin, tu vois, qui est des intrigues et des rebondissements et des voyages et des et je trouve que Maryse Condé, elle est dans ses romans, elle est hyper accessible et qu'elle a vraiment un souffle littéraire, un souffle romanesque vraiment nourri, comme on l'a dit tout à l'heure, de mouvement. Et c'est fun. Enfin, lire Maryse, c'est aussi la garder vivante et Il y a plein de choses différentes. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a beaucoup de romans dans lesquels trouver quelque chose. Voilà. Donc, si on peut la lire, si on peut faire des clubs de lecture, si on peut s'écharper autour de la vision et la compréhension d'un, je sais pas, d'une intrigue, si on n'est pas content de tel héros, de telle héroïne, c'est tout, ça sera ça.
Moi, Tituba sorcière, noire de Salem. C'est dans leur cœur que les miens garderont mon souvenir, sans nul besoin de graphie. C'est dans leur cœur et dans leur tête. Comme je suis morte sans qu'il ait été possible d'enfanter, les invisibles m'ont autorisée à me choisir une descendante.
j'ai longuement cherché. J'ai épié dans les cases, j'ai regardé les lavandières donner le sein, les amareuses déposées sur un tas de hardes, les nourrissons qu'elles étaient forcées d'emmener avec elles au champ. J'ai comparé, soupesé, tâté, et finalement je l'ai trouvée, celle qu'il fallait. Why is this so hard to breathe? And all the leaves turned red and the orange rain has fallen. Why is this so hard to breathe? And all the trees turned gray and the wind brought us nowhere. So why is it so hard to breathe?
Il y a tellement de vie qui gisent dans les archives, comme l'écrit Elsa Dorlin. Parce que devenir Tituba, elle dit, devenir Tituba, c'est s'en aller prendre soin des vies qui gisent dans les archives. Et donc, comment on prend soin de ces vies-là, de ces noms-là, de ces individus dont les histoires ont été effacées, oubliées, marginalisées. Et donc le geste artistique pour moi, en tout cas celui que j'espère que est cette pièce, c'est encore une fois de réanimer quelque chose et de devenir moi-même vecteur d'une force, d'un lien, d'un soin, d'un amour, d'une joie profonde. Quand je monte sur scène, en fait, ou avant de monter sur scène, j'ai un rituel où je pense à celles et ceux qui m'accompagnent, et particulièrement à celles qui m'accompagnent. Et je sais que maintenant, je prends un moment pour penser à Maryse Condé, parce que son œuvre est là, en moi, et m'accompagne. Et je pense que le fait de savoir qu'elle n'est plus de ce monde, c'est-à-dire du monde physique, elle est d'autant plus là, dans l'invisible. Donc, je me rends compte que ce n'est pas simplement une perte, mais j'ai gagné en force en l'ayant comme ancêtre-là. C'est-à-dire qu'elle fait partie de ces êtres invisibles qui m'accompagnent dans cette pièce et avec qui je peux être en conversation permanente pendant que je performe. Je suis très reconnaissante de son écriture et de sa vie. C'est une inspiration incroyable. Et donc, je l'inspire. Je prends mon inspiration en l'inspirant. Et je l'expire dans mes mots, dans mon corps, dans ma danse, dans ma voix, dans la musique. Donc c'est, je suis habitée aussi par la figure de Maryse Condé.
Je voulais te demander qu'on prenne un temps pour lire les extraits ou l'extrait que tu as choisi.
Ouais.
Mais voilà, je sais pas quels sont.
Moi, j'ai choisi En attendant la montée des eaux.
Ah, trop bien.
Mais c'est un extrait, mais il est long.
Pas de souci.
Et c'est mon. À chaque fois qu'on me demande un extrait, c'est celui que je choisis parce que pour moi, c'est un extrait qui synthétise l'œuvre et le geste littéraire de Maryse. Et donc, ce passage-là, pour moi, c'est le passage. Il est trop beau, il est trop profond. Et pour moi, c'est. Oui, caractérise bien. Donc c'est celui que j'ai choisi. Alors. Des nègres aux yeux bleus, cela mérite explication. Il nous faut pour cela remonter encore en arrière. C'est bien connu, c'est le passé qui nourrit et éclaire le présent. Le premier ancêtre de Tekla qui eut les yeux bleus s'appelait Wangara. Il plafonnait à 1,58 m, et légua à sa descendance sa taille réduite, ainsi que la couleur de ses yeux. C'était le fils de Makalu et de sa troisième femme, Fatoma. Bien qu'ultérieurement baptisé Joseph dans la servitude, Wangara garda toujours son nom africain. Il avait été capturé sur la côte des esclaves, à un endroit appelé Sosonabo, fertile pour les razzias. Une nuit, les négriers européens et leurs aides africains portèrent le feu et la destruction à Sosonabo. Jugé trop vieux pour supporter les épreuves du passage du milieu, les Anglais disent Middle Passage, les noms varient, mais c'est la traversée qui va du bonheur de l'Afrique à l'enfer des Caraïbes. Makalou et Fatoma eurent la gorge proprement tranchée. Témoin de la scène, Wangara pleura, pleura, pleura. Il pleura tellement que ses prunelles changèrent de couleur comme un linge dont la teinte ne résiste pas aux lessives. Ainsi de brune, elles virèrent au bleu. Ces yeux-là signifiaient que Wangara n'était pas un vulgaire mortel. Il était capable de lire le passé, le présent et de déchiffrer l'invisible.
Chérie, j'ai besoin de toi. Faut pas écouter les ondes. Hein? Dis-même je t'aime. Où est le problème? Faut pas écouter les ondes. D'accord?
Chérie, la bife.
C'était Marie Scondé en sororité, au fil des pages, des gestes, des invisibles. Un documentaire de Myriam Rabat-Konaté, réalisé par Louise André. Avec Maïmouna Baradji, Dorothée Mounianeza, Amandine Nana, Maboula Soumaoro, ainsi que Primavera, Anne-Pauline et Moy. Merci à la librairie L'Odeur du Temps et à Simon, au Théâtre de la Cité et à Magda Bacha. Merci à la compagnie Kadidi, au compositeur Khaya Malami et à Dorothée Mounianeza pour la musique originale du spectacle Toi, Moi, Tituba. Prise de son, Romain Luquiens et Ludovic Auger. Mixage, Kevin Delcourt. L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron.